Katia Beach.
Après l'annonce des taxes douanières américaines de 39%, ni la présidente de la Confédération ni le ministre de l'Économie n'ont prévu de se rendre aux États-Unis pour l'instant. Mais le Conseil fédéral veut poursuivre les négociations avant l'entrée en vigueur de ces taxes jeudi prochain. Hier soir, dans Forum, Guy Parmelin a évoqué comme piste de discussion l'importation de gaz liquide ou des investissements supplémentaires. En revanche, le conseiller fédéral en charge de l'économie ne veut pas utiliser une stratégie de la menace, comme de renoncer à l'achat des avions F-35, ou de menacer de taxer les entreprises de la tech. Près d'un million de jeunes venus de 146 pays ont acclamé le pape hier lors de son arrivée à Rome en hélicoptère. La foule a passé la nuit sur l'esplanade, une zone à l'est de Rome qui représente l'équivalent de 70 terrains de football. Ce matin, le pape Léon XIV célébrera la messe de clôture de cette veillée de prière. C'est le premier grand rassemblement du souverain pontife, point d'orgue du jubilé année sainte organisé tous les 25 ans par l'Église catholique. Un volcan situé sur la péninsule russe du Kamtchatka est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans. Le volcan qui culmine à plus de 1800 mètres dégage actuellement une colonne de cendres jusqu'à 6 km d'altitude. Cette éruption intervient quelques jours après le puissant séisme d'une magnitude de 8,8 au large du Kamtchatka qui a provoqué une alerte tsunami dans tout le Pacifique. En football, le FC Servette s'est encore incliné hier soir en Super League face au FC Saint-Gall 4-1. Après l'échec face à Young Boys samedi dernier. Young Boys, qui cette fois était tenu en échec à Winterthur, 1-1, et Bâle s'est imposé face à Grasshopper 2-1. Cet après-midi, le Lausanne Sport se déplace à Thun, coup d'envoi à 14h, et le FC Sion accueille Lugano à 16h30. Toujours en football, en Challenge League cette fois, le Stade Nyonnais s'est défait de Rapperswil 1-0, et Neuchâtel Xamax s'est imposé à Beninzone 5-1. En cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot a réussi un coup double lors de la 8e et avant-dernière étape du Tour de France féminin. Elle s'est imposée au sommet du col de la Madeleine et s'est emparée du maillot jaune de leader. La genevoise Élise Chabet conserve tout de même le maillot à poids de leader. En natation, Noé Ponti devra encore patienter avant d'être sacré champion du monde en grand bassin. Le Tessinois a tout de même décroché la médaille d'argent sur 100 mètres papillon hier aux Mondiaux de Singapour. Sa deuxième médaille après celle en argent remportée lors de l'épreuve du 50 mètres papillon. La météo, le temps sera encore bien ensoleillé ce dimanche en plaine avec des passages nuageux plus fréquents en direction du nord, notamment en Ajoie. L'après-midi, le développement de cumulus, surtout le long des reliefs, pourront donner quelques averses isolées. Il fera entre 20 et 24 degrés cet après-midi et demain, le temps sera également assez ensoleillé malgré des voiles de nuages élevés, parfois denses. Il fera 12 degrés le matin jusqu'à 25 l'après-midi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Matine, Sidney Fierro.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum.
Tout se résume en trois mots. Il suffit d'aimer.
Moder, ani le fanecha. Melech, kai le kayam.
Abun bashmaya. Nechada shmo. Tife malkufo.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission de matine. Aujourd'hui, je vous propose un voyage aux frontières de l'imaginaire. Nous allons voguer entre les ténèbres et la lumière, entre l'enfer et le paradis. Ce sont deux mots qui claquent, qui interpellent, deux visions aussi, qui traversent les récits des peuples, les œuvres d'art, les prières aussi, et puis parfois même nos propres pensées. Alors tout au long de cette émission, je vais vous emmener à travers les images, les symboles, les musiques, les croyances aussi, les intuitions de ces enfers brûlants du Moyen-Âge aux enfers intérieurs du monde moderne, des paradis célestes aux états de grâce plus discrets, mais peut-être plus proches qu'on ne le croit, avec notamment différents compositeurs à travers différentes époques pour des musiques du monde entier et à travers elles, de vraies portes qui vont s'ouvrir. Et à la fin de cette traversée, j'aimerais vous poser une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que ces images, infernales ou paradisiaques, nous disent encore aujourd'hui ? y a des mots qui font peur, même lorsqu'on n'y croit pas. Enfer, ce sont 5 lettres et tout un monde d'angoisse, de châtiment, de cris, de ténèbres, un gouffre, une menace aussi, un fantasme peut-être, ou un avertissement. L'enfer, c'est peut-être d'abord ça, une image qui traverse toutes les cultures, toutes les langues, toutes les époques. Mais d'abord, pourquoi parler de l'enfer ? À première vue, ça pourrait sembler complètement démodé, un concept d'un autre âge, bon pour effrayer les enfants ou hanter les sermons du Moyen-Âge. Mais l'enfer résiste, il se transforme, il s'adapte. On le retrouve dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les livres, dans les rêves, dans nos peurs les plus profondes. Dans les guerres, dans les camps, dans les enfers quotidiens que traversent les vivants. Car l'enfer n'est pas qu'un lieu de l'au-delà. C'est aussi une façon de penser le mal, l'injustice, la douleur, la séparation. Et cette idée d'un endroit où l'on souffre, séparé de la lumière ou de la grâce, elle est partout. Chez les Grecs, on parle du Tartare, le royaume des supplices. Chez les chrétiens, c'est la Géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans l'islam, c'est le feu de Jahannam. Dans le bouddhisme, les enfers sont des états d'existence liés à nos actes passés. Dans les traditions africaines, le monde des morts peut être perturbé, déséquilibré, si les vivants n'honorent pas leurs ancêtres. Même dans les traditions amérindiennes ou océaniennes, on parle de terres obscures, de lieux de passage et d'épreuves post-mortem.
Thank you.
puis l'enfer va changer, se transformer, s'adapter aux sociétés. Au XIIe siècle, en Occident, une nouvelle idée apparaît. C'est celle du purgatoire. Dans son ouvrage majeur, « La naissance du purgatoire », l'historien Jacques Le Goff montre que cette invention traduit une révolution mentale. Il ne s'agit plus d'un simple enfer ou d'un paradis, on invente un entre-deux, un lieu transitoire pour les pécheurs rédimés. Mais en creux, c'est l'image même de l'enfer qui se précise, un lieu d'exclusion, de refus, de violence totale. Et Le Goff va plus loin, il écrit, je résume, que l'enfer reflète les structures mentales et sociales de chaque époque. Une société anxieuse, hiérarchisée, violente, produit un enfer à son image. Mais l'enfer ne se trouve pas toujours dans l'au-delà. Il est parfois dedans, silencieux, tapis sous la surface. Un enfer psychique, émotionnel, existentiel. Saint Augustin écrivait déjà dans ses Confessions « Je suis devenu un problème pour moi-même ». Cette formule vieille de 16 siècles dit bien l'angoisse qui ronge de l'intérieur. La honte, la culpabilité, le rejet, ces flammes qu'on ne voit pas, mais qui consument. Et aujourd'hui, on parlerait peut-être de trauma, de souffrance non élaborée, de culpabilité toxique. Mais dans toutes les cultures, l'enfer intérieur est reconnu. Il prend le visage du remords, du poids du passé, du silence qui isole. Certains textes mystiques vont plus loin. Pour Thérèse d'Avila, l'enfer, c'est l'éloignement de l'amour. Pour Maître Eckhart, moine dominicain du XIIIe siècle, c'est l'oubli de Dieu en soi. Alors l'enfer n'est pas toujours un lieu, ni même une punition. C'est parfois tout simplement un état, un manque, une séparation, d'avec les autres, d'avec soi-même. Alors pourquoi parler encore de cet enfer ? Parce qu'il n'a jamais vraiment disparu, parce qu'il parle de nous, parce qu'il interroge ce que nous appelons le mal, en nous et autour de nous. Et parce que, peut-être, en regardant l'enfer en face, on peut préparer aussi le terrain pour autre chose. Peut-être pour la lumière.
Thank you.
Dans les textes, l'enfer est feu, séparation, c'est une nuit éternelle. Mais au Moyen-Âge, la plupart des fidèles ne savaient pas lire. Alors l'Église a confié aux artistes une mission, rendre visible l'invisible. Et dans les églises, les cathédrales, les vitraux, les retables, on montrait ce que l'on prêchait. L'enfer se regardait autant qu'il s'écoutait. Et certains peintres sont allés encore plus loin, jusqu'à faire de l'enfer une œuvre d'art totale, à la fois terrifiante, fascinante, mais profondément humaine aussi. Imaginez un triptyque monumental, trois volets peints à l'huile. À gauche, le paradis, des anges, un jardin luxuriant, des silhouettes baignées de lumière. Au centre, le jugement dernier, le Christ majestueux qui sépare les âmes. Et à droite, l'enfer. Et c'est là que l'œil se fige. Un chaos de visages hurlants, des hommes nus, tordus, enchaînés, des instruments de torture, d'une imagination folle, des créatures hybrides, moitié poisson, moitié couteau, des flammes, des crocs, des têtes renversées dans des bouches, des crapauds, des bouches ouvertes dans des fesses. Un monde sans logique et pourtant diaboliquement organisé. Et ce tableau existe. C'est le Jugement dernier de Hieronymus Bosch, peint vers 1500. Il se trouve aujourd'hui à Vienne et il résume à lui seul tout l'imaginaire infernal du Moyen-Âge finissant. Bosch n'est pas un illustrateur de catéchisme, c'est un visionnaire. Il peint l'enfer comme un cauchemar moral et visuel. Pas simplement pour effrayer, mais pour faire réfléchir. Chaque punition est liée à un péché. L'avare est broyé sous des pièces, le gourmand dévoré par ses aliments, le luxurieux piqué par des dards. C'est la logique du châtiment par l'objet même du désir, typique de la démonologie médiévale. L'enfer médiéval est en fait une pédagogie. Comme l'écrit Jacques Le Goff, historien français majeur, spécialiste du Moyen-Âge, considéré comme l'un des grands médiévistes du XXe siècle, l'imagerie de l'enfer a d'abord une fonction éducative. Elle sert à discipliner les âmes par la peur. Les églises romanes et gothiques en étaient pleines, tympans sculptés, fresques, vitraux. L'enfer était absolument partout et il fallait faire peur pour faire croire. Et puis il y a Bruegel l'Ancien, ce peintre flamand du XVIe siècle, un siècle plus tard donc, avec une autre image de l'enfer, le triomphe de la mort. Une armée de squelettes brûle, pend, décapite, détruit. Les rois comme les paysans, les amoureux et les soldats, tous sont emportés. Il n'y a pas de salut, plus d'issue. Ce n'est plus seulement un enfer après la mort, mais c'est une apocalypse sur terre. Le tableau se trouve aujourd'hui au musée du Prado à Madrid, et il glace le sang. Là encore, pas de complaisance, mais une mise en garde. Les peintres nous disent « Voilà ce que nous devenons quand nous oublions l'amour, la justice, la miséricorde. L'enfer, c'est ce monde qu'on laisse pourrir. C'est celui qu'on fabrique. » Et si ces images nous parlent encore aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'elles réveillent quelque chose en nous. Cette peur archaïque, mais aussi une conscience morale. Thank you. Après avoir vu les visions flamboyantes de l'enfer chez Bosch ou Bruegel, on pourrait croire que ces images sortent tout droit de l'imaginaire des artistes. Mais ces scènes prennent racine dans des traditions bien plus anciennes, dans les textes religieux eux-mêmes, puisque l'enfer, avant d'être une peinture, c'est une parole. Une parole qui a traversé les siècles dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans les textes de la Bible hébraïque, il n'y a pas encore d'enfer au sens chrétien. Il y a le Sheol. C'est un lieu sombre, souterrain, silencieux, une sorte de caverne des morts. Tout le monde y descend, bon comme méchant. Et le Sheol, ce n'est pas un lieu de châtiment, c'est un lieu d'absence, une ombre du vivant. Il faudra attendre l'influence perse et grecque à l'époque du Second Temple pour voir apparaître l'idée de jugement après la mort. Dans le christianisme, en revanche, la séparation devient plus nette et le mot « enfer » prend corps. Dans les évangiles, Jésus parle à plusieurs reprises de la Géhenne. Ce mot vient de la vallée de Hinnom, à Jérusalem. C'est un lieu marqué par des sacrifices humains dans l'Antiquité. Et à l'époque de Jésus, cette vallée est devenue le symbole d'un rejet absolu, d'une rupture avec Dieu. Et la Géhenne est un feu, un lieu où, je cite Matthieu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais les premiers chrétiens n'étaient pas tous d'accord. Pour certains pères de l'Église, comme Origène, l'enfer n'est pas éternel. Dieu finira par réconcilier toutes les âmes avec lui. D'autres, comme Augustin, affirment au contraire que l'enfer est éternel, car Dieu est juste. Et cette tension va traverser toute l'histoire de la théologie, entre justice et miséricorde, entre peine éternelle et rédemption possible. Dans l'islam, on retrouve la même tension. Le Coran parle souvent de Jahannam, un lieu de feu, de souffrance, d'abandon. Mais il précise aussi que Dieu est le plus miséricordieux. Pour les croyants, l'enfer peut n'être que temporaire, un temps de purification. Certains théologiens musulmans ont même pensé que le feu de l'enfer pourrait devenir froid pour les justes, comme il l'est devenu pour Abraham. Et au-delà de ces différences, il y a cette même idée qui revient. C'est celle d'un enfer moral, un lieu de conséquences. On n'y va pas par hasard, on y va parce qu'on a refusé, abîmé, trahi quelque chose d'essentiel. Le lien avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Et dans chaque religion, donc, il y a cet avertissement. Ne condamnez pas à l'enfer trop vite, car Dieu seul juge. Les religions monothéistes ont souvent présenté l'enfer comme un lieu de rupture. Cette rupture avec Dieu, avec la lumière, avec la grâce. Mais ailleurs dans le monde, en Asie, en Afrique, notamment dans les spiritualités anciennes ou chamaniques, l'enfer n'est pas toujours une fin. C'est parfois juste un état temporaire, un passage, ou même un miroir de nos propres déséquilibres. Et je vous propose de plonger à présent dans ces autres visions du monde où l'au-delà s'écrit autrement. Dans les textes bouddhiques du Mahayana, comme le Sutra des 10 terres, il est question de plusieurs mondes d'existence. Et parmi eux, les Narakas, souvent traduits par « enfer », sont des lieux d'une grande souffrance. On distingue généralement 8 enfers chauds et 8 enfers froids, chacun lié à un type de karma négatif. Mais ces enfers ne sont pas éternels. On y naît temporairement, en fonction de ses actions passées. Et une fois la dette karmique épuisée, on se réincarne ailleurs. On peut donc sortir de l'enfer. Mieux encore, il n'est pas un lieu au sens strict, mais un état de conscience. Et il en va de même dans l'hindouisme, où l'on parle de Naraka également. Ce sont des régions souterraines gouvernées par Yama, le dieu de la mort. Et là aussi, les âmes y séjournent un temps avant d'être réaffectées dans le cycle des renaissances, le samsara. Dans ces traditions, donc, l'enfer n'est pas la fin du monde. C'est une étape dans le grand mouvement de transformation. Et il est souvent décrit avec précision. On y marche sur des lames, on est brûlé dans des chaudrons ou gelé vivant. Mais ces images servent à éveiller la conscience, pas à condamner pour l'éternité.
Thank you.
Et puis, il y a les spiritualités africaines, océaniques ou amérindiennes. Dans beaucoup de cultures d'Afrique subsaharienne, par exemple chez les Yoruba ou les Bantous, il n'existe pas d'enfer unique. Il y a plutôt un déséquilibre dans la relation entre les vivants et les ancêtres. Si les rituels sont négligés, si l'ordre est rompu, alors le mort peut devenir une force négative. L'au-delà n'est pas séparé du monde, mais il le pénètre. En Polynésie, à Hawaï ou chez les Maoris, le monde est souvent divisé entre Po, l'obscurité, l'origine, la mort, et Ao, la lumière, la vie, la connaissance. Ce n'est pas un enfer au sens moral, mais une dualité sacrée que l'on traverse rituellement. Et chez les peuples amérindiens, les récits varient, mais une idée revient. Il faut traverser des épreuves, des ponts fragiles, des montagnes escarpées pour rejoindre les ancêtres. Et ce n'est pas du tout une punition, mais c'est plutôt une forme de méritocratie cosmique, on pourrait dire. Dans ces traditions, le but ce n'est pas tant d'éviter l'enfer que de vivre en équilibre avec les éléments, les esprits et la mémoire. Thank you. Nous avons traversé les enfers, ce qui était brûlant, froid, souterrain, ou encore cyclique, mais l'histoire des religions ne s'arrête pas là. Face à la peur du châtiment, il y a l'autre pôle, la promesse, la consolation, ce lieu où tout est paix. Voici à présent le moment du paradis. Dans de nombreuses traditions, cette espérance prend la forme d'un jardin, un lieu clos, protégé, où l'on entend encore le souffle de Dieu. C'est un lieu d'origine ou de retour. Nous terminons cette première heure de matine avec cet avant-goût du paradis et la musique de Gabriel Fauré, extraite de son Requiem. C'était le In Paradisum. Nous allons continuer notre exploration de l'enfer, du paradis, à travers la musique, les différents courants religieux, spirituels, sacrés. Ça sera juste après les informations, puisqu'il est 8h sur RTS Espace 2.